au café de la mort.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit.
Avec Christian Hervault et Jean-Paul Souzède.
La mort. La mort.
Bonjour, chers auditeurs, chers amis de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour notre émission où nous retrouvons Jean-Paul Souzède.
Bonjour.
Bonjour Jean-Paul. Voilà, nous sommes au Café de la Mort et nous y sommes allés d'ailleurs, au Café de la Mort, au Café Mortel ou Mortel Café,
c'est ça.
Comme on veut. Hein, on peut le mettre dans tous les sens, ça
café
signifie
mortel.
À peu près
c'est
la même
chose.
C'est-à-dire que nous parlons de la mort dans ce café, l'Instant T, rue Racine. C'était mardi dernier. Et c'était notre première rencontre avec des personnes connues ou inconnues, voilà. Et nous avons pu échanger. Alors ma première question, Jean-Paul Souzède, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première rencontre ?
Ben, je trouve que c'était enfin pour moi c'était très très agréable de pouvoir échanger dans un espace public sur un thème dont le quel il est un peu tabou, comme un peu le générique de cette émission aussi, il ne faudrait pas parler de la mort. Et bien, si parler de la mort, personne n'en meurt, ça ne tue pas. Et l'objectif, justement, c'était de parler de nos expériences, c'était ouvrir un espace de parole, un espace public de parole pour échanger sur nos expériences de mort, ou de la mort, ou des mourants et des morts.
Et des vivants.
Et des vivants, bien sûr, parce que nous sommes vivants et c'est toujours la même chose. Hein, c'est-à-dire, tant qu'on est mort, ben, on ne peut pas en parler. Et tant qu'on est vivant, c'est difficile de parler de la mort, si ce n'est celle des autres.
Donc, cette première rencontre, déjà, il faut dire que l'endroit est assez spacieux et agréable, mais on était quand même nombreux.
Oui, on était une quarantaine, c'est bien.
Ouais.
Donc c'était à l'Instant T rue Racine, comme vous venez de le dire. On se retrouvera à nouveau le 9 décembre à 18h30 jusqu'à 20h, toujours à l'Instant T, dans un bistrot qui porte bien son nom, en tout cas qui est bien adapté à pour travailler sur la mort, qui est un Instant T aussi, qui fait basculer nos existences. Voilà. Et l'intention de ce café, je le redis volontiers, c'est de pouvoir ouvrir un espace de parole, un espace public sur un événement qui nous concerne tous. Parce que du fait qu'on est vivant, nous sommes mortels. Donc parlons de la mort, parlons de nos croyances, parlons de nos appréhensions, nos inquiétudes peut-être. Parlons aussi de la manière dont nous accompagnons les mourants, dont nous avons vécu des décès de nos proches ou de personnes plus lointaines. Mais ça n'empêche que parfois ça nous impacte, parfois violemment. Parlons aussi de nos croyances sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Quelles croyances nous avons, et en général, même si on n'est pas religieux, c'est étonnant comme beaucoup de gens ont des croyances. Parlons aussi de comment accompagner les mourants. Parlons aussi de quelle mort je voudrais avoir, comment je voudrais choisir ma mort, comment j'aimerais organiser mes derniers jours. Parlons aussi du suicide, puisque c'est une manière aussi de choisir librement de mourir, même si c'est aussi tragique comme situation et comme acte. Comme décision. Voilà tous ces événements qui touchent à l'acte de mourir. On peut parler aussi des cimetières, on peut parler de la manière dont nous organisons un enterrement. Nous aimerions qu'il soit organisé. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit dit lors de mon enterrement, ou de mon inhumation, ou de mon incinération, suivant ce qu'on passe. Parlons aussi de ça. Faut-il se faire enterrer, incinérer ? Parlons de bien à quelle terre j'appartiens, où est-ce que j'aimerais que mes cendres, que mon corps, suivant que l'on choisit d'être incinéré ou d'être enterré, voudraient être déposés. Est-ce que j'ai une terre à laquelle j'appartiens ? Est-ce qu'il y a un lieu où j'aimerais que mes restes, cendres ou corps, dépouilles, soient déposés ? Voilà, il y a plein de sujets, en tous les cas, qui tournent autour de la mort et dont nous parlons peu dans notre quotidien. Ce n'est pas une conversation qu'on entretient fréquemment. Il y a des familles où ça se parle, où les vieux en particulier, les personnes âgées, parlent de leur inquiétude, parlent de la manière dont ils aimeraient être enterrés, parlent de ce qu'ils aimeraient laisser comme souvenir ou comme trace à leurs descendants. On parle aussi des personnes qui ont disparu, puis il y a d'autres familles où bien on évite ces sujets-là. Comme si d'en parler, ça avait une fonction magique de provoquer la mort, simplement en disant le mot. Donc, de mon point de vue, ce qui je trouve important, et c'est ça l'objectif d'un café de la mort, c'est de pouvoir ouvrir cette parole, nommer les choses, les rendre plus accessibles, parce que ça fait partie de nos vies, d'être mortel et d'être confronté à la mort. Donc, ne le cachons pas.
Alors, dans cette première rencontre, il y a eu quelques thèmes qui ont été abordés. On va pas refaire ce café ici, mais juste peut-être évoquer quelques sujets qui ont été déjà un peu dits par les uns ou les autres, d'une manière générale.
Ce qui est intéressant dans un café de la mort, je crois que c'est pas pertinent ici de redire effectivement ce qui s'est dit, puis de dévoiler des histoires qui appartiennent à cet instant T de la rencontre et du café. Mais ça a été l'occasion, en tout cas, de parler du suicide. C'était l'occasion de parler de mort violente, de parler aussi de la mort d'enfant. Comment est-ce qu'on aborde cette disparition-là? Ça a été aussi l'occasion de parler des enterrements et de comment on procède et où est-ce que vont avoir lieu cet enterrement. Enfin, quel sens ça a, les cimetières, puisque aujourd'hui, par exemple, c'est le 13 novembre. Ce n'est pas rien, puisque c'est aussi un jour où, avec l'histoire du Bataclan, au moment où on enregistre cette émission, en tous les cas, même si elle sera diffusée par ailleurs, c'est aussi un moment où la mort, tout à coup, a surgi dans sa violence. La violence d'un acte terroriste. Mais c'est aussi une manière dont la mort surgit de façon très inopinée. Et la mort est rarement prévue, rarement annoncée. Elle vient toujours elle vient souvent de façon surprenante et violente. On ne s'y attend pas, même pour nos parents âgés, dont on sait qu'ils vont mourir, quand la mort survient, tout à coup, c'est encore trop tôt. Voilà. Je dis ça en pensant aussi à des gens qui n'arrêtent pas de mourir, dont la mort n'intervient jamais, où on pourrait s'impatienter, ce qui arrive aussi. Voilà, les situations sont extrêmement multiples à l'image de notre humanité.
Dans ce café, donc, l'instant T, rue Racine, à Nîmes, il y a eu ces différents thèmes abordés, mais ce que j'ai apprécié personnellement, c'est la liberté d'expression des uns et des autres. Il n'y a pas eu trop de difficultés, en tout cas pour plusieurs personnes, de dire des choses très personnelles et d'être bien écoutées. Et qu'il y avait pour moi un respect dans les échanges. Donc oui. Voilà, c'est pour encourager ceux qui voudraient venir.
Tout à fait.
Qui auraient peut-être un petit peu d'appréhension parce que, on se livre un petit peu, mais dans une ambiance qui était bienveillante.
Qui instaure une certaine confidentialité et en tous les cas du respect, parce que ça parle de notre intimité, parler de la mort, parler de notre relation à la mort, parler des gens qui nous sont chers et qui ont disparu. Parler de notre expérience avec la mort, ça nous fait toucher dans l'intime. Mmh. Effectivement, l'intention des cafés de la mort, c'est pas d'avoir une discussion sur des sujets, de débattre, c'est plutôt de poser des expériences, de raconter ses émotions, de pouvoir exprimer ce que chacun, l'un ou l'autre, a vécu. Mmh. Et Bernard Crétaz a écrit un livre qui s'appelle Café mortel. C'est un Suisse qui avait expérimenté des cafés de la mort pendant une dizaine d'années. Et j'ai repris contact là récemment, donc j'avais lu ce livre bien sûr pour me préparer à l'animation de ces cafés. Et puis j'avais pris contact récemment avec une personne qui organise des cafés de la mort à Grenoble. À Valence, il y a aussi une association qui s'est développée avec toute une série d'animations auprès des EHPAD, dans des cafés, auprès d'associations, pas que de personnes âgées d'ailleurs, pour parler de la mort. Ça existe aussi, j'ai vu des affiches au Vent, ça existe à Pézenas, ça existe à Bordeaux. Enfin, il y a plein d'endroits où cette expérience-là, cette initiative s'est développée. Et je trouve ça très sain face à une thématique de la mort, qui en fait n'est pas qu'une thématique, c'est une expérience vécue. Voilà. On parle beaucoup d'amour, mais on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de la souffrance, on parle beaucoup des adolescents, mais ça me paraît assez légitime de pouvoir parler de la mort et d'ouvrir cet espace de parole pour pouvoir Voilà, échanger sur cette expérience qui nous échappe toujours, puisque quand on sera mort, on ne pourra plus en parler, mais qu'en même temps, qui nous confronte toujours parce que nous vieillissons chaque jour, parce que nous voyons des gens mourir autour de nous, parce que nous pourrions mourir à chaque instant. Enfin, j'espère pas trop, mais quand même, c'est une menace qui existe, voilà. D'être mortel, c'est menaçant. Et donc, je trouve que c'est important de pouvoir en parler, de ne pas en faire un sujet tabou, qui serait d'autant plus inquiétant qu'il serait caché et interdit. Donc, parlons-en.
Voilà, donc c'est ce que nous faisons ici, et c'est ce que nous avons fait rue Racine mardi, que nous referons, et si vous voulez bien venir nous rencontrer, donc le 9 décembre, 18h30. Alors pour le moment, nous allons peut-être commencer nos rencontres là aujourd'hui, notre rencontre aujourd'hui, Jean-Paul, autour du deuil. Qu'est-ce qu'on peut dire? On parle du deuil, de porter son deuil, de faire son deuil, de voilà, et donc des étapes du deuil. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire, nous expliquer un petit peu à ce sujet?
Il y a peut-être une expression qui est assez agaçante, qui est justement de faire son deuil. Comme si le deuil, c'était quelque chose qu'on allait entreprendre, ou qu'on allait faire. Ça ne me paraît pas très juste. C'est une expérience de vie que l'on traverse, qui peut prendre du temps, et qui, plus on a de lien avec la personne défunte, plus il va y avoir de l'intensité, de la difficulté à traverser cette période-là, cette construction-là. Un deuil, c'est pas quelque chose que l'on fait. Ouais, j'aime pas cette expression. C'est pas quelque chose que l'on fait et puis après coup on peut passer en se disant ben ça y est, je passe à autre chose. Non, c'est quelque chose qu'on va intégrer dans notre vie, qui va nous construire, qui va nous transformer, parce que ça ne peut plus être comme avant. Et peut-être que le processus de deuil, c'est ça. C'est quelque chose qui va nous enrichir, qui va nous transformer, nous donner un autre regard sur notre propre existence. Alors, c'est intéressant parce que il y a ce médecin Kubler-Ross qui avait travaillé aux États-Unis avec les ce qu'on appelle les NDE, c'est les expériences de proches de la mort, où en faisant ce travail, elle s'est aperçue qu'il y avait des étapes dans le processus de deuil. Alors, je les redis parce que je trouve que c'est intéressant, parce que ces étapes-là fonctionnent aussi bien quand je perd quelque chose comme simplement mes clés, une adresse, mon téléphone. Aujourd'hui, perdre son téléphone, c'est très pénible. Mais que perdre une personne aussi, c'est les mêmes réactions psychiques, psychologiques que je vais mettre en place. Et une première, ça va être le déni. C'est-à-dire, non, c'est pas possible que j'ai perdu mon téléphone, c'est pas possible que cette personne soit décédée, je n'y crois pas, on a dû se tromper. Et du coup, je suis d'abord dans une négation, comme une sorte d'incapacité, d'impossibilité à accepter le réel. C'est la phase du déni, du refus, quoi. Et je dois dire que certaines personnes peuvent rester bloquées dans cette situation-là, comme s'il ne fallait pas que cette mort existe. Oui, il y a des personnes qui font de leur du défunt ou de la chambre du défunt un mausolée. Il ne faut plus y toucher, il ne faut plus parler de cette personne, ou bien au contraire, on va garder à table une place pour elle, comme si elle allait revenir. C'est donc une forme d'incapacité à accepter la disparition, et accepter surtout l'émotion, la faille, la brèche que ça va ouvrir dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis il y a une deuxième phase qui va être une phase de négociation, ou de marchandage. Mais de la négociation, c'est-à-dire que c'est une manière d'accepter le réel, mais de négocier avec le réel. Donc c'est peut-être pas lui qui est mort, c'est peut-être une autre. Ou peut-être qu'il n'est pas mort vraiment, ou peut-être qu'on s'est trompé, qu'il y a un accident, mais que c'est pas, ça, il y a une erreur sur l'information. Donc, je vais négocier avec le réel, qui est encore une phase de comme une manière de pouvoir accepter le réel et progressivement de pouvoir l'apprivoiser, l'intégrer, parce que pour l'instant la nouvelle est trop violente, elle est trop perturbante, elle me bouscule trop. Et je préfère imaginer quelque chose qui soit un peu parallèle, qui soit un peu négocié, qui soit discuté, plutôt que de me confronter à cette vérité crue et trop violente pour moi. J'ai la même chose si je perds mon téléphone. Non, je ne l'ai pas perdu, je l'ai oublié à la maison, ou j'ai dû l'égarer quelque part. Je suis en train de négocier en faisant ça.
pas tout à fait la même portée quand même.
C'est pas la même. Non. Je sais bien.
Parce qu'on peut en racheter un autre.
Exactement.
Mais racheter son père ou sa mère, par exemple, ça ne va pas le faire.
Ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes processus avec moins d'intensité.
Oui, bien sûr.
Mais c'est ça que je trouve important.
Oui.
Puis il y a une troisième phase après le déni et après le marchandage ou la négociation qui va être une phase de colère. C'est-à-dire progressivement, je rentre dans une acceptation, mais c'est tellement insupportable que je me mets en colère. Et je peux me mettre en colère contre le médecin qui décidément a très mal soigné ma mère. Je peux me mettre en colère contre le chirurgien qui a fait n'importe quoi en opérant mon père. Il n'a pas fait les bons gestes, il n'a pas su faire, il n'a pas su me prévenir. Je vais être en colère avec la garde malade qui n'était pas là au moment où elle est décédée alors qu'elle est payée pour ça et que franchement elle pouvait être là et qu'elle aurait pu certainement faire autre chose. Je peux être en colère contre moi-même parce que je n'ai pas su...
De ne pas avoir été là,
de ne pas avoir su entendre sa souffrance. Enfin, il y a quelque chose autour du reproche, comme si au lieu d'aller regarder la mort, je regardais un autre, un tiers, en lui déversant non pas mon chagrin, mais une autre émotion qui est la colère pour dire « je t'en veux de l'avoir fait mourir ». Alors que certainement, ça n'a rien à voir.
Ça peut être aussi « je t'en veux d'être mort ».
Je t'en veux d'être mort, mais je...
D'être mort avant moi, par
voilà,
exemple.
Voilà, par exemple.
J'ai eu de connaissance de jumelles, et donc il y en a une des deux qui est morte avant,
ah oui.
Fatalement. Et l'autre disait, ben, je lui en veux d'être parti avant moi.
Ah oui,
quelque chose comme ça, vous voyez.
C'est très étonnant. Mais
ce sont des réactions, en fait, où on ne veut pas accepter.
Plutôt d'accepter
le réel.
La mort, voilà, je me mets dans la colère, qui est une autre forme d'émotion et qui est une autre forme, une manière aussi d'exprimer son chagrin et sa tristesse, mais d'aller l'orienter sur un tiers. C'est comme une sorte de détournement, de déviation de l'émotion. Oui, moi j'ai rencontré des gens aussi, vous voyez la maman, elle avait, je sais pas, la personne est décédée, devait avoir 95-96 ans, ils allaient faire un procès au médecin parce qu'ils auraient pu trouver un traitement pour quand même la prolonger. Alors que bon, voilà, 96 ans c'est déjà énorme, et puis il écrit nulle part qu'on ne doit pas mourir, il écrit nulle part qu'on doit vivre au-delà de 96 ans, enfin... Ça pose plein d'autres questions, qui est où est la limite de notre vie et à quel moment on lâche et à quel moment on accepte que la mort est là et la mort est inéluctable. Mais c'est dire que dans cette étape, après le déni, après la négociation, la colère est une manière de ne pas se confronter directement à son chagrin et d'aller exprimer une émotion sur des tiers. Et puis, après la colère, il va y avoir une forme d'acceptation qui passe d'abord par un moment de déprime. Je vois bien que je ne peux pas me détourner du réel. Le réel est bien là. Cette personne que j'aime est décédée. Oui, elle est morte. Elle n'est plus là. Elle ne remue plus, elle ne parle plus. Et j'ai beau refuser de voir, elle est là. J'ai beau penser que non, elle n'est pas morte, elle est peut-être qu'endormie, ou peut-être qu'elle va se réveiller, ou peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Non, elle est toujours morte. J'ai beau être en colère contre moi-même, contre le médecin, contre je ne sais qui, ben ça ne change rien. Donc je me confronte à ce réel. Et ce réel, parfois, est tellement difficile à subir, à accueillir, que ben oui, je suis dans la dépression, c'est-à-dire j'ai un moment de désœuvrement, de lassitude, d'abandon, de... Ouais, je suis confronté au vide, c'est le Vendredi Saint, je dirais. Une sorte de négation de la vie, de l'intérêt de l'existence. Je suis triste, et je pleure. Et je trouve que c'est important aussi que dans les enterrements, dans toutes ces cérémonies, que enfin, toi et moi, nous organisons des enterrements... Nous assurons quelques accompagnements de services funèbres pour des familles, et on voit bien que c'est aussi le moment où l'émotion peut se libérer et les pleurs peuvent s'exprimer, et c'est précieux, c'est indispensable aussi.
Oui, c'est tout à fait nécessaire, libre. Après, il y a des personnes qui n'arrivent pas à pleurer.
C'est pas grave.
À l'enterrement, mais bon, voilà, c'est chacun
c'est
a sa façon de ressentir.
Ce qui est touchant, c'est les personnes.
Chagrin.
C'est ce qui est touchant, c'est les personnes qui s'excusent parce qu'elles pleurent. Ben non, vous excusez pas de pleurer quand quelqu'un est mort et que vous aimez.
Ouais.
Ça, c'est tellement normal et bienvenu à cette émotion-là. Voilà, donc c'est une phase de dépression, d'émotion, de pleurs, de chagrin, ouais, où parfois le monde s'effondre, quoi. Parfois, le monde n'a plus de sens quand c'est quelqu'un qui est tellement proche, que c'est un enfant, ou que c'est un conjoint avec lequel on s'entend bien. Tout à coup, c'est toute une part de nous qui part dans la tombe, et qui du coup nous démunit tellement, nous ampute tellement d'une part de nous-mêmes que c'est extrêmement difficile à supporter. Et je peux revenir à nouveau en me disant « mais non, c'est pas possible, je rêve ». Et faire du déni. Et je peux revenir à une phase de me dire « mais non, c'est pas possible, il va se passer autre chose, enfin, ça va pas s'arrêter là ». Et je peux revenir à une phase de colère, m'en voulant de ce qui s'est passé, de ne pas avoir su faire d'autres choses avant, de ne pas avoir su dire avant des mots précieux que je ne pourrais plus dire. Et puis à revenir à nouveau sur cette phase de chagrin et de tristesse. Voilà, puis après vient une phase d'acceptation, qui est une phase dans laquelle je peux intégrer ce deuil, cette absence, comme étant une part de moi-même qui me construit, qui développe ma personnalité, qui développe mon identité. Ben oui, je suis quelqu'un qui a perdu un être cher. Et ça fait partie de moi. Et je n'ai pas à en avoir honte, je n'ai pas à en avoir de culpabilité, c'est ainsi. Alors c'est souvent difficile pour des enfants qui sont orphelins très tôt, parce que sans cesse par rapport à leurs copains, quand on leur dit « alors, et ta maman ou ton papa ?»« Ah ben, il est mort, ouais, d'accord. » Donc c'est un peu difficile par rapport aux copains, c'est souvent difficile pour plein de personnes, quand ils sont très attachés, que ces personnes-là avaient énormément de place dans leur vie, parce que c'est tellement une partie d'eux-mêmes que c'est presque gênant si on est identifié à cette particularité-là.
Je voudrais dans ces différentes étapes du deuil. Donc, il y a la phase de l'enterrement. On va en reparler peut-être là, dans quelques instants. Mais je vous propose pour l'instant, Jean-Paul Sauzet, de faire une petite pause de musique. Et c'est une chanson de Grégoire qui s'appelle « Chanson pour un enterrement » où il dit ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas. Voilà, alors nous allons l'écouter, puis nous revenons ensemble dans quelques minutes.
Je ne crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure, non je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas dans ce cercueil seul et froid, non je n'y crois pas. Car je crois que tu es là, que tu marches auprès de moi, oui ça j'y crois. Je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce. Oh oui, ça j'y crois. Je ne crois pas à l'enfer de te voir là sous la terre. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas au silence, à la peur ou à l'absence. Non, je n'y crois pas. Mais je crois que tu es là, dans mon cœur, au fond de moi. Oui, ça, j'y crois. Et je crois que tu me serres comme tu me serrais hier. Oui, ça, j'y crois. Oui, je crois que tu m'embrasses, que personne ne te remplace. Oui, ça, j'y crois. J'y croirai pour toujours, tant qu'il reste de l'amour. Oui, crois-moi. Je ne crois pas à la mort de l'esprit, même si le corps, lui, un jour s'en va. Car je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce. Oui, sache. Et j'y croirai pour toujours, car ça ne meurt jamais l'amour. Oh oui, ça j'y crois. Oui, j'y croirai pour toujours, car ça ne meurt pas l'amour. Oh oui, crois-moi. Oui, j'y croirai pour toujours, car ça ne meurt jamais l'amour. Et moi ça j'y crois. Oui, j'y croirai pour toujours, car il ne meurt pas l'amour que j'ai pour toi.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2. Vous pouvez nous écouter en DAB+, ou bien aller sur notre site radioallianceplus.fr pour écouter nos podcasts. Et nous reprenons notre émission avec Jean-Paul Sauzède, où nous sommes au Café de la Mort, dans le studio de Radio Alliance Plus, après être allés à l'instant T pour, au Café Mortel mardi dernier. Et là, nous avons essayé d'expliquer les différentes phases, les différentes étapes du deuil. Ça ne se fait pas en un clin d'œil, hein, on se doute bien. Un deuil, c'est très long, ça peut durer des années, ça peut être aller et revenir, comme vous nous l'avez très bien expliqué, Jean-Paul Sauzède. Et donc,
avant votre question, je pourrais rajouter que c'est intéressant parce que souvent on dit « Ah, il faut une année pour traverser un deuil », ce que je ne crois pas du tout être le cas. Mais par contre… Il faut une année.
Ah, d'accord.
Et je trouve que c'est intéressant parce que, ayant perdu un enfant, ma fille aînée, je mesure comment effectivement une année permet de retraverser tous les événements de la vie d'une année, les saisons, les fêtes familiales, Noël, les anniversaires, etc., en l'absence de l'autre. Et je trouve que c'est effectivement, c'est traverser ces quatre saisons, c'est pas que question de saison, c'est aussi une question des événements familiaux, refaire des vacances avec l'autre qui est absent, ça permet à chaque fois de se dire « Ah oui, elle n'est pas là, il n'est pas là ». Et quand même, la vie continue. Mais comment on va organiser la vie et comment la famille se reconstitue, comment le système familial va se réorganiser en l'absence de l'autre qui est décédé. Et effectivement, c'est au fil de cette année, et une année est le minimum, où à chaque fois, au fil des événements, les choses se réorganisent, la vie se réorganise. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'un an, on a fait son deuil, je n'aime pas cette expression, je l'ai déjà dit, mais ça veut dire qu'on a réexpérimenté, en tous les cas, l'absence de l'autre.
Et ça, la vie a repris le dessus, est-ce qu'on peut dire ça?
On peut dire que la vie a repris le dessus, mais la vie s'est transformée à chaque fois parce que la vie s'organise autrement, le repas familial s'organise autrement parce qu'il y a un absent. Et donc, rien que les places à table, rien que les prises de parole, bah oui, on avait l'habitude qu'elle, que lui, dise, fasse quelque chose, mais qui ne se fait plus. Et du coup, tout se réorganise, et c'est intéressant de vivre tous ces événements de l'année en se disant, à chaque fois, quelque chose de l'absence se fait marquer, se fait jour, et nécessite de réorganiser le quotidien. Et il faut au moins une année, ce qui ne veut pas dire qu'au bout d'une année, on n'est plus en deuil. Non, le deuil continue. Je suis une personne endeuillée, et je le resterai toute ma vie. Mais Au fil des ans, les choses s'intègrent. Et c'est ça, je crois, la richesse de la mort, c'est que la mort des autres vient progressivement nous enrichir. Perdre quelqu'un, c'est irrémédiable. Et ça demande, et c'est ça aussi l'intérêt du Café Mortel, ça demande de prendre du temps, quoi. Osons parler du mort, osons parler de la mort, osons nommer nos chagrins, osons regarder comment ça vient bouleverser nos vies, d'une manière ou d'une autre, hein, positive ou négative parfois. Et je trouve que c'est important qu'on n'échappe pas à cet événement-là et qu'on ose prendre du temps et prendre du temps de la rencontre, prendre du temps des pleurs, prendre du temps de parler du mort, parler de la mort. Sinon, on est encore en train d'échapper à quelque chose qui fonde notre humanité, c'est que nous sommes tous mortels.
Voilà, mais je trouve que pour cette émission, c'est une conclusion qui vaut le coup et qui nous annonce la suite.
Oui, parce que nous sommes mortels parce que nous sommes vivants.
Au Café Mortel. Voilà. Donc, Café de la Mort, le mois prochain, nous nous retrouvons pour élargir encore nos réflexions à ce sujet. Et comme vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, c'est loin d'être fini. Nous vous disons au mois prochain, chers auditeurs et auditrices. Merci Jean-Paul.
Merci Christiane.
Au revoir.
La mort.